Le Capital, livre 1er, 8e section, chapitre 31. Genèse du capitaliste industriel. La genèse du capitaliste industriel. Note de bas de page. Le mot « industriel » entre guillemets est ici employé par opposition. Dans le sens catégorique, le fermier est tout aussi bien un capitaliste industriel que le fabricant. Fin de la note de bas de page. Donc, la genèse du capitaliste industriel ne s'accomplit pas petit à petit, comme celle du fermier. Nul doute que main chef de corporation, beaucoup d'artisans indépendants et même d'ouvriers salariés, ne soient devenus d'abord des capitalistes en herbe et que, peu à peu, grâce à une exploitation toujours plus étendue de travail salarié, suivie d'une accumulation correspondante, ils ne soient enfin sortis de leur coquille capitaliste de pied en cap. L'enfance de la production capitaliste offre, sous plus d'un aspect, les mêmes phases que l'enfance de la cité au Moyen-Âge, où la question de savoir lequel des serfs évadés serait maître et lequel serviteur était en grande partie décidée par la date plus ou moins ancienne de leur fuite. Cependant, cette marche à pas de tortue ne répondait aucunement aux besoins commerciaux du nouveau marché universel créé par les grandes découvertes de la fin du XVe siècle. Mais le Moyen-Âge avait transmis deux espèces de capital qui poussent sous les régimes d'économie sociale les plus divers et même qui, avant l'ère moderne, monopolisent à eux seuls le rang de capital. C'est le capital usuraire et le capital commercial. À présent, dit un écrivain anglais qui, du reste, ne prend pas garde au rôle joué par le capital commercial, ouvrez les guillemets. À présent, toute la richesse de la société passe en premier lieu par les mains du capitaliste, point de suspension. Il paie aux propriétaires fonciers la rente, aux travailleurs le salaire, aux percepteurs l'impôt et la dîme, et retient pour lui-même une forte portion du produit annuel du travail, en fait la partie la plus grande, et qui grandit encore jour par jour. Aujourd'hui, le capitaliste peut être considéré comme propriétaire en première main de toute la richesse sociale, bien qu'aucune loi ne lui ait conféré de droit à cette propriété. Point de suspension. Ce changement dans la propriété a été effectué par les opérations de l'usure. Et le curieux de l'affaire, c'est que les législateurs de toute l'Europe ont voulu empêcher cela par des lois contre l'usure. Point de suspension. La puissance du capitaliste sur toute la richesse nationale implique une révolution radicale dans le droit de propriété. Et par quelle loi ou par quelle série de lois a-t-elle été opérée? Note de bas de page. William Howitt, Colonization and Christianity, A Popular History of the Treatment of the Natives by the Europeans in All Their Colonies. London, 1838, page 9. Sur le traitement des esclaves, on trouve une bonne compilation chez Charles Comte, ouvrez la parenthèse, Traité de la législation, 3e édition, Bruxelles, 1837, fermez la parenthèse. Il faut étudier ce sujet en détail pour voir ce que le bourgeois fait de lui-même et du travailleur, partout où il peut, sans gêne, modeler le monde à son image. Fin de la note de bas de page. Donc, un homme dont la ferveur chrétienne a fait tout le renom, Mr. W. Howitt, s'exprime ainsi sur la colonisation chrétienne, ouvrez les guillemets. Les barbaries et les atrocités exécrables perpétrées par les races soi-disant chrétiennes dans toutes les régions du monde et contre tous les peuples qu'elles ont pu subjuguer n'ont de parallèle dans aucune autre ère de l'histoire universelle, chez aucune race si sauvage, si grossière, si impitoyable, si éhontée qu'elle fût. Fermez les guillemets. L'auteur cité aurait dû se dire que les révolutions ne se font pas de par la loi. La constitution féodale des campagnes et l'organisation corporative des villes empêchaient le capital argent, formé par la double voie de l'usure et du commerce, de se convertir en capital industriel. Ces barrières tombèrent avec le licenciement des suites seigneuriales, avec l'expropriation et l'expulsion partielle des cultivateurs, mais on peut juger de la résistance que rencontrèrent les marchands, sur le point de se transformer en producteurs marchands, par le fait que les petits fabricants de draps de Leeds envoyèrent encore, en 1794, une députation au Parlement pour demander une loi qui interdit à tout marchand de devenir fabricant. Note de bas de page. Dr. Aikin, Locksit. Fin de la note de bas de page. Aussi, les manufactures nouvelles s'établirent-elles de préférence dans les ports de mer, centres d'exportation, ou aux endroits de l'intérieur situés hors du contrôle du régime municipal et de ses corps de métier. De là, en Angleterre, lutte acharnée entre les vieilles villes privilégiées, corporate towns, entre parenthèses, et ses nouvelles pépinières d'industrie. Dans d'autres pays, en France par exemple, celles-ci furent placées sous la protection spéciale des rois. La découverte des contrées aurifères et argentifères de l'Amérique, la réduction des indigènes en esclavage, leur enfouissement dans les mines ou leur extermination, les commencements de conquêtes et de pillages aux Indes orientales, la transformation de l'Afrique en une sorte de varenne commerciale pour la chasse aux peaux noires, voilà les procédés idylliques d'accumulation primitive qui signalent l'ère capitaliste à son aurore. Aussitôt après, éclate la guerre mercantile. Elle a le globe entier pour théâtre. S'ouvrant par la révolte de la Hollande contre l'Espagne, elle prend des proportions gigantesques dans la croisade de l'Angleterre contre la Révolution française et se prolonge jusqu'à nos jours en expéditions de pirates comme les fameuses guerres d'opium contre la Chine. Les différentes méthodes d'accumulation primitive que l'ère capitaliste fait éclore se partagent d'abord, par ordre plus ou moins chronologique, le Portugal, l'Espagne, la Hollande, la France et l'Angleterre, jusqu'à ce que celles-ci les combinent toutes, au dernier tiers du XVIIe siècle, dans un ensemble systématique embrassant à la fois le régime colonial, le crédit public, la finance moderne et le système protectionniste. Quelques-unes de ces méthodes reposent sur l'emploi de la force brutale, mais toutes, sans exception, exploitent le pouvoir de l'État, la force concentrée et organisée de la société, afin de précipiter violemment le passage de l'ordre économique féodal à l'ordre économique capitaliste et d'abréger les phases de transition. Et en effet, la force est l'accoucheuse de toute vieille société en travail. La force est un agent économique. Un homme dont la ferveur chrétienne a fait tout le renom, Mr. W. Howitt, s'exprime ainsi sur la colonisation chrétienne. Ouvrez les guillemets. Les barbaries et les atrocités exécrables perpétrées par les races soi-disant chrétiennes dans toutes les régions du monde et contre tous les peuples qu'elles ont pu subjuguer n'ont de parallèle dans aucune autre ère de l'histoire universelle, chez aucune race si sauvage, si grossière, si impitoyable, si éhontée qu'elle fût. Note de bas de page. William Howitt, Colonization and Christianity, A Popular History of the Treatment of the Natives by the Europeans in Older Colonies, London, 1838, page 9. Sur le traitement des esclaves, on trouve une bonne compilation chez Charles Comte, ouvrez la parenthèse, Traité de la législation, 3e édition, Bruxelles, 1837, fermez la parenthèse. Il faut étudier ce sujet en détail pour voir ce que le bourgeois fait de lui-même et du travailleur, partout où il peut, sans gêne, modeler le monde à son image. Fin de la note de bas de page. donc. Un homme dont la ferveur chrétienne a fait tout le renom, Mr. W. Howitt, s'exprime ainsi sur la colonisation chrétienne, ouvrez les guillemets. Les barbaries et les atrocités exécrables perpétrées par les races soi-disant chrétiennes dans toutes les régions du monde et contre tous les peuples qu'elles ont pu subjuguer n'ont de parallèle dans aucune autre ère de l'histoire universelle, chez aucune race si sauvage, si grossière, si impitoyable, si éhontée qu'elle fût. Fermez les guillemets. L'histoire de l'administration coloniale des Hollandais, et la Hollande était au XVIIe siècle la nation capitaliste par excellence, ouvrez les guillemets, déroule un tableau de meurtres, de trahisons, de corruption et de bassesse qui ne sera jamais égalé. Note de bas de page. Thomas Stamford Raffles, late governor of Java. Java and its dependencies, London, 1817. Fin de la note de bas de page. Fermez les guillemets. Rien de plus caractéristique que leur système d'enlèvement des naturels des célèbes à l'effet de se procurer des esclaves pour le Java. Ils avaient tout un personnel spécialement dressé à ce rapt d'un nouveau genre. Les principaux agents de ce commerce étaient le ravisseur, l'interprète et le vendeur, et les principaux vendeurs étaient des princes indigènes. La jeunesse enlevée était enfouie dans les cachots secrets de célèbes jusqu'à ce que l'on l'entassât sur les navires d'esclaves. Ouvrez les guillemets. La seule ville de Macassar, par exemple, dit un rapport officiel, fourmille de prisons secrètes, toutes plus horribles les unes que les autres, remplies de malheureux, victimes de l'avidité et de la tyrannie, chargées de fer, violemment arrachées à leurs familles. Fermez les guillemets. Pour s'emparer de Malacca, les Hollandais corrompirent le gouverneur portugais. Celui-ci les fit entrer dans la ville en 1641. Ils coururent aussitôt à sa maison et l'assassinèrent, s'abstenant ainsi, point de suspension, de lui payer la somme de 21 875 livres sterling, prix de sa trahison. Partout où ils mettaient le pied, la dévastation et la dépopulation marquaient leur passage. Une province de Java, Bayuwangi, comptait en 1750 plus de 80 000 habitants. En 1811, elle n'en avait plus que 8 000. Voilà le doux commerce. La Compagnie anglaise des Indes orientales obtint, outre le pouvoir politique, le monopole exclusif du commerce du thé et du commerce chinois en général, ainsi que celui du transport des marchandises d'Europe en Asie et d'Asie en Europe. Mais le cabotage et la navigation entre les îles, de même que le commerce à l'intérieur de l'Inde, furent concédés exclusivement aux employés supérieurs de la compagnie. Les monopoles du sel, de l'opium, du bétel et d'autres denrées étaient des mines inépuisables de richesses. Les employés, fixant eux-mêmes les prix, écorchaient à discrétion le malheureux hindou. Le gouvernement général prenait part à ce commerce privé. Ses favoris obtenaient des adjudications telles que, plus forts que les alchimistes, ils faisaient de l'or avec rien. De grandes fortunes poussaient en 24 heures, comme des champignons. L'accumulation primitive s'opérait sans un liard d'avance. Le procès de Warren Hastings fourmille d'exemples de ce genre. Citons-en un seul. Un certain Sullivan obtient un contrat pour une livraison d'opium au moment de son départ en mission officielle pour une partie de l'Inde tout à fait éloignée des districts producteurs. Sullivan cède son contrat pour 40 000 livres sterling à un certain Bean. Bean, de son côté, le revend le même jour pour 60 000 livres sterling. Et l'acheteur définitif, exécuteur du contrat, déclare après cela avoir réalisé un bénéfice énorme. D'après une liste présentée au Parlement, la compagnie et ses employés extorquèrent aux Indiens, de 1757 à 1760, sous la seule rubrique de dons gratuits, une somme de 6 millions de livres sterling. De 1769 à 1770, les Anglais provoquèrent une famine artificielle en achetant tout le riz et en ne consentant à le revendre qu'à des prix fabuleux. Note de bas de page. En 1866, plus d'un million d'hindous moururent de faim dans la seule province d'Orissa. On n'en chercha pas moins à enrichir le trésor public par les prix de vente des denrées offertes aux affamés. Fin de la note de bas de page. Donc, de 1769 à 1770, les Anglais provoquèrent une famine artificielle en achetant tout le riz et en ne consentant à le revendre qu'à des prix fabuleux. Le sort des indigènes était naturellement le plus affreux dans les plantations destinées au seul commerce d'exportation, telles que les Indes occidentales, et dans les pays riches et populeux, tels que les Indes orientales et le Mexique, tombés entre les mains d'aventuriers européens, âpres à la curée. Cependant, même dans les colonies proprement dites, le caractère chrétien de l'accumulation primitive ne se démentait point. Les austères intrigants du protestantisme, les puritains, allouèrent en 1703, par décret de leur assemblée, une prime de 40 livres sterling par scalp d'Indien et autant par chaque peau rouge fait prisonnier. En 1720, une prime de 100 livres sterling. En 1744, Massachusetts Bay ayant déclaré rebelle une certaine tribu, les primes suivantes furent offertes. 100 livres sterling par scalp d'individus mâles de 12 ans et plus. 105 livres sterling par prisonnier mâle. 55 livres sterling par femme ou enfant pris. Et 50 livres sterling pour leur scalp. 30 ans après, les atrocités du régime colonial retombèrent sur les descendants de ces pieux pèlerins. Pilgrim Fathers, entre parenthèses, devenus à leur tour des rebelles. Les limiers, dressés à la chasse des colons en révolte, et les Indiens, payés pour livrer leurs scalps, furent proclamés par le Parlement, ouvrez les guillemets, des moyens que Dieu et la nature avaient mis entre ses mains, fermez les guillemets. Le régime colonial donna un grand essor à la navigation et au commerce. Il enfanta les sociétés mercantiles dotées par les gouvernements de monopoles et de privilèges et servant de puissants leviers à la concentration des capitaux. Il assurait des débouchés aux manufactures naissantes dont la facilité d'accumulation redoubla grâce au monopole du marché colonial. Les trésors, directement extorqués hors de l'Europe par le travail forcé des indigènes réduits en esclavage, par la concussion, le pillage et le meurtre, refluaient à la mère patrie pour y fonctionner comme capitale. La vraie initiatrice du régime colonial, la Hollande, avait déjà, en 1648, atteint l'apogée de sa grandeur. Elle était en possession presque exclusive du commerce des Indes orientales et des communications entre le sud-ouest et le nord-est de l'Europe. Ses pêcheries, sa marine, ses manufactures dépassaient celles des autres pays. Les capitaux de la République étaient peut-être plus importants que tous ceux du reste de l'Europe pris ensemble. De nos jours, la suprématie industrielle implique la suprématie commerciale. Mais à l'époque manufacturière proprement dite, c'est la suprématie commerciale qui donne la suprématie industrielle. De là, le rôle prépondérant que joua alors le régime colonial. Il fut « le dieu étranger » entre guillemets, qui, ouvre les guillemets, se place sur l'autel à côté, fermez les guillemets, des vieilles idoles de l'Europe. Ouvrez les guillemets. Un beau jour, il pousse du coude ses camarades et patatras. Voilà toutes les idoles à bas. Fermez les guillemets. le système du crédit public, c'est-à-dire des dettes publiques, dont Venise et Gênes avaient, au Moyen-Âge, posé les premiers jalons, envahit l'Europe définitivement pendant l'époque manufacturière. Le régime colonial, avec son commerce maritime et ses guerres commerciales, lui servant de serre chaude, il s'installa d'abord en Hollande. La dette publique, en d'autres termes l'aliénation de l'État, qu'il soit despotique, constitutionnel ou républicain, marque de son empreinte l'ère capitaliste. La seule partie de la soi-disant richesse nationale qui entre réellement dans la possession collective des peuples modernes, c'est leur dette publique. Note de bas de page. William Cobbett remarque qu'en Angleterre, toutes les choses publiques s'appellent royales, mais que par compensation, il y a la dette nationale. Fin de la note de bas de page. Donc, la seule partie de la soi-disant richesse nationale qui entre réellement dans la possession collective des peuples modernes, c'est leur dette publique. Il n'y a donc pas à s'étonner de la doctrine moderne que plus un peuple s'endette, plus il s'enrichit. Le crédit public, voilà le credo du capital. Aussi, le manque de foi en la dette publique vient-il, dès l'incubation de celle-ci, prendre la place du péché contre le Saint-Esprit, jadis le seul impardonnable. Note de bas de page. Quand, au moment le plus critique de la deuxième guerre de la Fronde, Bussy Rabutin demande, pour pouvoir lever un régiment, des assignations sur les « tailles du Nivernois encore dues » et sur le sel, Mazarin répond « plût à Dieu que cela se pût, mais tout cela est destiné pour les rentes sur l'hôtel de ville de Paris. Et il serait étrange conséquence de faire des levées de ces deniers-là. Il ne faut point irriter les rentiers, ni contre moi, ni contre vous. » Fermez les guillemets. Ouvrez la parenthèse. Mémoire du comte de Bussy Rabutin, nouvelle édition Amsterdam, 1751, tome 1, page 165. Fermez la parenthèse. Fin de la note de bas de page. Donc, aussi, le manque de foi en la dette publique vient-il, dès l'incubation de celle-ci, prendre la place du péché contre le Saint-Esprit, jadis le seul impardonnable. La dette publique opère comme un des agents les plus énergiques de l'accumulation primitive. Par un coup de baguette, elle doue l'argent improductif de la vertu reproductive et le convertit ainsi en capital, sans qu'il ait pour cela à subir les risques, les troubles inséparables de son emploi industriel et même de l'usure privée. Les créditeurs publics, à vrai dire, ne donnent rien, car leur principal, métamorphosé en effet public d'un transfert facile, continue à fonctionner entre leurs mains comme autant de numéraires. Mais, à part la classe de rentiers oisifs ainsi créée, à part la fortune improvisée des financiers intermédiaires entre le gouvernement et la nation, de même que celle des traitants, marchands, manufacturiers, particuliers auxquels une bonne partie de tout emprunt rend le service d'un capital tombé du ciel, la dette publique a donné le branle aux sociétés par action, au commerce de toutes sortes de papiers négociables, aux opérations aléatoires, à l'agiotage, en somme, au jeu de bourse et à la bancocratie moderne. Dès leur naissance, les grandes banques, affublées de titres nationaux, n'étaient que des associations de spéculateurs privés s'établissant à côté des gouvernements et, grâce aux privilèges qu'ils en obtiennent, à même de leur prêter l'argent du public. Aussi, l'accumulation de la dette publique n'a-t-elle pas de gradimètre plus infaillible que la hausse successive des actions de ces banques, dont le développement intégral date de la fondation de la Banque d'Angleterre en 1794. Celle-ci commença par prêter tout son capital argent au gouvernement à un intérêt de 8%. En même temps, elle était autorisée par le Parlement abattre monnaie du même capital en le prêtant de nouveau au public sous forme de billets qu'on lui permit de jeter en circulation, en escomptant avec eux des billets d'échange, en les avançant sur des marchandises et en les employant à l'achat de métaux précieux. Bientôt après, cette monnaie de crédit de sa propre fabrique devint l'argent avec lequel la Banque d'Angleterre effectua ses prêts à l'État et paya pour lui les intérêts de la dette publique. Elle donnait d'une main, non seulement pour recevoir davantage, mais tout en recevant, elle restait créancière de la nation à perpétuité, jusqu'à concurrence du dernier liard donné. Peu à peu, elle devint nécessairement le réceptacle des trésors métalliques du pays et le grand centre au cours duquel gravita dès lors le crédit commercial. Dans le même temps qu'on cessait en Angleterre de brûler les sorcières, on commença à y pendre les falsificateurs de billets de banque. Il faut avoir parcouru les écrits de ce temps-là, ceux de Bolingbroke, par exemple, pour comprendre tous les faits que produisit sur les contemporains l'apparition soudaine de cette engeance de bancocrates, financiers, rentiers, courtiers, agents de change, brasseurs d'affaires et loups-cerviers. Note de bas de page. Ouvrez les guillemets. Si les Tartares inondaient aujourd'hui l'Europe, il faudrait bien des affaires pour leur faire entendre ce que c'est qu'un financier parmi nous. Fermez les guillemets. Ouvrez la parenthèse. Montesquieu, Esprit des lois, tome 4, page 33, édition de Londres, 1769. Fermez la parenthèse. Fin de la note de bas de page. Donc, il faut avoir parcouru les écrits de ce temps-là, ceux de Bolingbroke, par exemple, pour comprendre tous les faits que produisit sur les contemporains l'apparition soudaine de cette engeance de bancocrates, financiers, rentiers, courtiers, agents de change, brasseurs d'affaires et loups-cerviers. Avec les dettes publiques, naquit un système de crédit international qui cache souvent une des sources de l'accumulation primitive chez tel ou tel peuple. C'est ainsi, par exemple, que les rapines et les violences vénitiennes forment une des bases de la richesse en capital de la Hollande, à qui Venise, en décadence, prêtait des sommes considérables. À son tour, la Hollande, déchue vers la fin du XVIIe siècle de sa suprématie industrielle et commerciale, se vit contrainte à faire valoir des capitaux énormes en les prêtant à l'étranger, et, de 1701 à 1776, spécialement à l'Angleterre, sa rivale victorieuse. Et il en est de même à présent de l'Angleterre et des États-Unis. Main capitale qui fait aujourd'hui son apparition aux États-Unis sans extrait de naissance n'est que du sang d'enfant de fabrique capitalisé hier en Angleterre. Comme la dette publique est assise sur le revenu public qui en doit payer les redevances annuelles, le système moderne des impôts était le corollaire obligé des emprunts nationaux. Les emprunts, qui mettent les gouvernements à même de faire face aux dépenses extraordinaires sans que les contribuables s'en ressentent sur le champ, entraînent à leur suite un surcroît d'impôts. De l'autre côté, la surcharge d'impôts causée par l'accumulation des dettes successivement contractées contraint les gouvernements, en cas de nouvelles dépenses extraordinaires, d'avoir recours à de nouveaux emprunts. La fiscalité moderne, dont les impôts sur les objets de première nécessité et partant l'enchérissement de ceux-ci formaient de prime abord le pivot, renferme donc en soi un germe de progression automatique. La surcharge des taxes n'en est pas un incident, mais le principe. Aussi, en Hollande, où ce système a été d'abord inauguré, le grand patriote de Witt l'a-t-il exalté dans ses maximes comme le plus propre à rendre le salarié soumis, frugal, industrieux et, point de suspension, exténué de travail. Mais l'influence délétère qu'il exerce sur la situation de la classe ouvrière doit moins nous occuper ici que l'expropriation forcée qu'il implique du paysan, de l'artisan et des autres éléments de la petite classe moyenne. Là-dessus, il n'y a pas deux opinions, même parmi les économistes bourgeois. Et son action expropriatrice est encore renforcée par le système protectionniste qui constitue une de ses parties intégrantes. La grande part qui revient à la dette publique et au système de fiscalité correspondant, dans la capitalisation de la richesse et l'expropriation des masses, a induit une foule d'écrivains tels que William Cobbett, Doubleday et autres à y chercher à tort la cause première de la misère des peuples modernes. Le système protectionniste fut un moyen artificiel de fabriquer des fabricants, d'exproprier des travailleurs indépendants, de convertir en capital les instruments et conditions matérielles du travail, d'abréger de vive force la transition du mode traditionnel de production au mode moderne. Les États européens se disputèrent la palme du protectionnisme et, une fois entrés au service des faiseurs de plus-value, ils ne se contentèrent pas de saigner à blanc leur propre peuple, indirectement par les droits protecteurs, directement par les primes d'exportation, les monopoles de vente à l'intérieur, etc. Dans les pays voisins placés sous leur dépendance, ils extirpèrent violemment toute espèce d'industrie. C'est ainsi que l'Angleterre tua la manufacture de laine en Irlande, à coups d'oukases parlementaires. Le procédé de fabrication des fabricants fut encore simplifié sur le continent, où Colbert avait fait école. La source enchantée, d'où le capital primitif arrivait tout droit aux faiseurs, sous forme d'avances et même de dons gratuits, y fut souvent le trésor public. « Pourquoi ?» entre guillemets, s'écrit Mirabeau. Ouvrez les guillemets. « Pourquoi aller chercher si loin la cause de l'éclat manufacturier de la Saxe avant la guerre ?» 180 millions de dettes faites par les souverains. Note de bas de page. Mirabeau, Loxy, tome 6, page 101. Fin de la note de bas de page. Fermez les guillemets. Régime colonial, dette publique, exaction fiscale, protection industrielle, guerre commerciale, etc. Tous ces rejetons de la période manufacturière proprement dite prennent un développement gigantesque pendant la première genèse de la grande industrie. Quant à sa naissance, elle est dignement célébrée par une sorte de massacre des innocents. Le vol d'enfants exécuté en grand. Le recrutement des fabriques nouvelles se fait comme celui de la marine royale, au moyen de la presse. Si blasé que F. M. Eden se soit montré au sujet de l'expropriation du cultivateur, dont l'horreur remplit 3 siècles, quel que soit son air de complaisance en face de ce drame historique nécessaire, entre guillemets, pour établir l'agriculture capitaliste et, ouvrez les guillemets, la vraie proportion entre les terres de labour et celles de pacage, fermez les guillemets, cette sereine intelligence des fatalités économiques lui fait défaut dès qu'il s'agit de la nécessité du vol des enfants, de la nécessité de les asservir afin de pouvoir transformer l'exploitation manufacturière en exploitation mécanique et d'établir le vrai rapport entre le capital et la force ouvrière. Ouvrez les guillemets. Le public, dit-il, ferait peut-être bien d'examiner si une manufacture, dont la réussite exige qu'on arrache aux chaumières et aux workhouses de pauvres enfants qui, se relevant par troupes, peineront la plus grande partie de la nuit et seront privés de leur repos, laquelle en outre agglomère pêle-mêle des individus différents de sexe, d'âge et de penchant, en sorte que la contagion de l'exemple entraîne nécessairement la dépravation et le libertinage, si une telle manufacture peut jamais augmenter la somme du bonheur individuel et national. Note de bas de page. Eden, Loxite, livre 2, chapitre 1, page 421. Fin de la note de bas de page. Fermez les guillemets. Ouvrez les guillemets. dans le Derbyshire, le Nottinghamshire et surtout le Lancashire, fermez les guillemets, dit Filden, qui était lui-même filateur, ouvrez les guillemets, les machines récemment inventées furent employées dans de grandes fabriques tout près de cours d'eau assez puissants pour mouvoir la roue hydraulique. Il fallut tout à coup des milliers de bras dans ces endroits éloignés des villes, et le Lancashire en particulier, jusqu'alors relativement très peu peuplé et stérile, eut avant tout besoin d'une population. Des doigts petits et agiles, tel était le cri général. Et aussitôt naquit la coutume de se procurer de soi-disant apprentis des workhouses appartenant aux diverses paroisses de Londres, de Birmingham et d'ailleurs. Des milliers de ces pauvres petits abandonnés, de 7 à 13 et 14 ans, furent ainsi expédiés vers le nord. Le maître, le voleur d'enfants entre crochets, se chargeait de vêtir, nourrir et loger ses apprentis dans une maison ad hoc tout près de la fabrique. Pendant le travail, ils étaient sous l'œil des surveillants. C'était l'intérêt de ces gardes-chourmes de faire trimer les enfants à outrance, car, selon la quantité de produits qu'ils en savaient extraire, leur propre paye diminuait ou augmentait. Les mauvais traitements, telle fut la conséquence naturelle, point de suspension. Dans beaucoup de districts manufacturiers, principalement dans le Lancashire, ces êtres innocents, sans amis ni soutien, qu'on avait livrés aux maîtres de fabrique, furent soumis aux tortures les plus affreuses. Épuisés par l'excès de travail, ils furent fouettés, enchaînés, tourmentés avec des raffinements les plus étudiés. Souvent, quand la faim les tordait le plus fort, le fouet les maintenait au travail. Le désespoir les porta, en quelques cas, au suicide. Point de suspension. Les belles et romantiques vallées du Derbyshire devinrent de noires solitudes où se commirent impunément des atrocités sans nom et même des meurtres. Point de suspension. Les profits énormes réalisés par les fabricants ne firent qu'aiguiser leurs dents. Ils imaginèrent la pratique du travail nocturne, c'est-à-dire qu'après avoir épuisé un groupe de travailleurs par la besogne de jour, ils tenaient un autre groupe tout prêt pour la besogne de nuit. Les premiers se jetaient dans les lits que les seconds venaient de quitter au moment même et vice-versa. C'est une tradition populaire dans le Lancashire que les lits ne refroidissaient jamais. Note de bas de page. John Filden, The Curse of the Factory System, page 5-6. Relativement aux infamies commises à l'origine des fabriques, voyez Dr. Aikin, 1795, entre parenthèses, Loxit, page 219, et Gisborne, Enquiry into the Duties of Man, 1795, volume 2. Dès que la machine à vapeur transplanta les fabriques des cours d'eau de la campagne au milieu des villes, le faiseur de plus-value, amateur d'abstinence entre guillemets, trouva sous la main toute une armée d'enfants sans avoir besoin de mettre des workhouses en réquisition. Lorsque Sir R. Peel, ouvrez la parenthèse, père du ministre de la plausibilité, fermez la parenthèse, présenta en 1815 son bill sur les mesures à prendre pour protéger les enfants, F. Horner, l'ami de Ricardo, cita les faits suivants devant la Chambre des communes, ouvrez les guillemets. Il est notoire que récemment, parmi les meubles d'un banqueroutier, une bande d'enfants de fabrique fut, si je puis me servir de cette expression, mise aux enchères et vendue comme faisant partie de l'actif. Il y a 2 ans, 1813, entre parenthèses, un cas abominable se présenta devant le tribunal du banc du roi. Il s'agissait d'un certain nombre d'enfants. Une paroisse de Londres les avait livrés à un fabricant qui, de son côté, les avait passés à un autre. Quelques amis de l'humanité les découvrirent finalement dans un état complet d'inanition. Un autre cas, encore plus abominable, a été porté à ma connaissance lorsque j'étais membre du comité d'enquête parlementaire. Il y a quelques années seulement, une paroisse de Londres et un fabricant conclurent un traité dans lequel il fut stipulé que, par vingtaine d'enfants sains de corps et d'esprit vendus, ils devraient accepter un idiot. Fermez les guillemets, fin de la note de bas de page. Donc, les profits énormes réalisés par les fabricants ne firent qu'aiguiser leurs dents. Ils imaginèrent la pratique du travail nocturne, c'est-à-dire qu'après avoir épuisé un groupe de travailleurs par la besogne de jour, ils tenaient un autre groupe tout prêt pour la besogne de nuit. Les premiers se jetaient dans les lits que les seconds venaient de quitter au moment même, et vice-versa. C'est une tradition populaire dans le Lancashire que les lits ne refroidissaient jamais. Fermez les guillemets. Avec le développement de la production capitaliste pendant la période manufacturière, l'opinion publique européenne avait dépouillé son dernier lambeau de conscience et de pudeur. Chaque nation se faisait une gloire cynique de toute infamie propre à accélérer l'accumulation du capital. Qu'on lise, par exemple, les naïves annales du commerce de l'honnête Anderson. Ce brave homme admire comme un trait de génie de la politique anglaise que, lors de la paix d'Utrecht, l'Angleterre est arrachée à l'Espagne par le traité d'Asiento, le privilège de faire, entre l'Afrique et l'Amérique espagnole, la traite des nègres qu'elle n'avait faite jusque-là qu'entre l'Afrique et ses possessions de l'Inde orientale. L'Angleterre obtint ainsi de fournir jusqu'en 1743 4800 nègres par an à l'Amérique espagnole. Cela lui servait en même temps à couvrir d'un voile officiel les prouesses de sa contrebande. Ce fut la traite des nègres qui jeta les fondements de la grandeur de Liverpool. Pour cette ville orthodoxe, le trafic de chair humaine constitua toute la méthode d'accumulation primitive. Et, jusqu'à nos jours, les notabilités de Liverpool ont chanté les vertus spécifiques du commerce d'esclaves, ouvrez les guillemets, lequel développe l'esprit d'entreprise jusqu'à la passion, forme des marins sans pareil et rapporte énormément d'argent. Note de bas de page, voyez le livre déjà cité du docteur Aikin, 1795. Fin de la note de bas de page. Fermez les guillemets. Liverpool employait à la traite 15 navires en 1730, 53 en 1751, 74 en 1760, 96 en 1770 et 132 en 1792. Dans le même temps que l'industrie cotonnière introduisait en Angleterre l'esclavage des enfants, aux États-Unis, elle transformait le traitement plus ou moins patriarcal des Noirs en un système d'exploitation mercantile. En somme, il fallait pour piédestal à l'esclavage dissimulé des salariés en Europe, l'esclavage sans phrase dans le Nouveau Monde. Note de bas de page. En 1790, il y avait dans les Indes occidentales anglaises 10 esclaves pour un homme libre. Dans les Indes françaises, 14 pour un. Dans les Indes hollandaises, 23 pour 1. Ouvrez la parenthèse. Henry Brougham, An Inquiry into the Colonial Policy of the European Powers, Edinburgh, 1803, volume 2, page 74. Fermez la parenthèse. Fin de la note de bas de page. Donc, dans le même temps que l'industrie cotonnière introduisait en Angleterre l'esclavage des enfants, aux États-Unis, elle transformait le traitement plus ou moins patriarcal des Noirs en un système d'exploitation mercantile. En somme, il fallait pour piédestal à l'esclavage dissimulé des salariés en Europe, l'esclavage sans phrase dans le Nouveau Monde. Tantae molis erat. Note de la donneuse de voix, tant cela nous a coûté de peine. » Fin de la note de la donneuse de voix. Donc, « Tanta emolis erat. Voilà de quel prix nous avons payé nos conquêtes. Voilà ce qu'il en a coûté pour dégager les, ouvrez les guillemets, « lois éternelles et naturelles », fermez les guillemets, de la production capitaliste, pour consommer le divorce du travailleur d'avec les conditions du travail, pour transformer celle-ci en capital et la masse du peuple en salariés, en pauvres industrieux, laboring poor, entre parenthèses, chef-d'œuvre de l'art, création sublime de l'histoire moderne. Note de bas de page. Cette expression « laboring poor » se trouve dans les lois anglaises depuis le temps où la classe des salariés commence à attirer l'attention. La qualification de « laboring poor » est opposée d'une part à celle de « idle poor », le pauvre fainéant, mendiant, etc., d'autre part à celle de travailleur, possesseur de ses moyens de travail, n'étant pas encore tout à fait plumé. De la loi, l'expression est passée dans l'économie politique depuis Culpeper, Jay Child, etc., jusqu'à Adam Smith et Eden. On peut juger d'après cela de la bonne foi de l'execrable political catmonger Edmund Burke quand il déclare l'expression laboring poor un execrable political cant. Ce sycophante qui, à la solde de l'oligarchie anglaise, a joué le romantique contre la Révolution française, de même qu'à la solde des colonies du nord de l'Amérique, au commencement de leurs troubles, il avait joué le libéral contre l'oligarchie anglaise, avait l'âme foncièrement bourgeoise. Ouvrez les guillemets. Les lois du commerce, dit-il, sont les lois de la nature et conséquemment de Dieu. Fermez les guillemets. Ouvrez la parenthèse. Edmund Burke, L'Occide, page 31-32, fermez la parenthèse. Rien d'étonnant que, fidèle aux lois de Dieu et de la nature, il se soit toujours vendu aux plus offrants enchérisseurs. On trouve dans les écrits du révérend Tucker, il était pasteur et Tory, au demeurant homme honorable et bon économiste, un portrait bien réussi de cet Edmund Burke au temps de son libéralisme. À une époque comme la nôtre, où la lâcheté des caractères s'unit à la fois la plus ardente, aux « lois du commerce », entre guillemets, c'est un devoir de stigmatiser sans relâche les gens tels que Burke, que rien ne distingue de leurs successeurs, rien, si ce n'est le talent. Fin de la note de bas de page. Donc, voilà de quel prix nous avons payé nos conquêtes. Voilà ce qu'il en a coûté pour dégager les « lois éternelles et naturelles » entre guillemets de la production capitaliste, pour consommer le divorce du travailleur d'avec les conditions du travail, pour transformer celle-ci en capital, et la masse du peuple en salariés, en pauvres industrieux, « laboring poor », entre parenthèses, chef-d'œuvre de l'art, création sublime de l'histoire moderne. Si, d'après Augier, c'est, ouvrez les guillemets, avec des taches naturelles de sang sur une de ses faces que, ouvrez les guillemets, l'argent est venu au monde. Note de bas de page, Marie Augier, du Crédit Public, Paris, 1842, page 265, fin de la note de bas de page. Fermez les guillemets. Le capital y arrive, suant le sang et la boue, par tous les pores. Note de bas de page. Ouvrez les guillemets. Le capital, dit la Quarterly Review, fuit le tumulte et les disputes, et est timide par nature. Cela est très vrai, mais ce n'est pas pourtant toute la vérité. Le capital abhorre l'absence de profit, ou un profit minime, comme la nature a horreur du vide. Que le profit soit convenable et le capital devient courageux. 10% d'assurés et on peut l'employer partout. 20% il s'échauffe. 50% il est d'une témérité folle. À 100% il foule aux pieds toutes les lois humaines. 300%, et il n'est pas de crime qu'il n'ose commettre, même au risque de la potence. Quand le désordre et la discorde portent profit, il les encourage tous deux. Preuve, la contrebande et la traite des nègres. Fermez les guillemets. F. J. Dunning, L'Occit, page 436. Fin de la note de bas de page. Donc, si, d'après Augier, c'est, ouvrez les guillemets, avec des taches naturelles de sang sur une de ses faces, fermez les guillemets, que, ouvrez les guillemets, l'argent est venu au monde, fermez les guillemets, le capital y arrive, suant le sang et la boue par tous les pores.